présence permanente du numérique dans nos organisations a fait apparaître de nouveaux risques et un sentiment de perte de contrôle lorsqu'il se met à bugger. Usage numérique, gestion de la donnée, souveraineté numérique ou encore la cybersécurité et stratégie sont le meilleur remède pour reprendre la main. Et on va commencer par Sylvain, donc Sylvain Dufier pour la communauté d'Aglo. Et la première question, c'est donc grande organisation, et donc qui dit grande organisation dit multiples stratégies, il n'y a pas qu'une seule stratégie numérique, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous dire un petit peu quelles sont les grandes problématiques qu'elles sont censées résoudre?
Alors au départ, on a commencé par une stratégie. On a commencé par les usages numériques dans laquelle en fait on avait quatre axes principaux qui étaient d'abord la gouvernance du numérique, les données, la sécurité et les usages. Et en travaillant sur cette stratégie, puisque ça a été aussi un moment de travailler sur l'harmonisation de nos outils, l'ensemble des projets qui étaient à prévoir sur les 6 années à venir. Donc, on arrivait quand même avec un portefeuille de projets de plus de 200 projets qu'il a fallu prioriser. Ça a mis en avant plusieurs choses. Déjà, des problématiques de ressources. Donc, la stratégie, ça nous a permis de recruter, ça nous a permis d'étoffer notre direction du numérique, de travailler sur la connaissance, puisqu'il y avait un axe de données, de nos données. Donc, le premier recrutement, ça a été un recrutement sur la gouvernance de nos données, de travailler sur comment, avec l'ensemble des directions et en transversalité, on peut avoir une connaissance de notre patrimoine de données. Quand on a construit notre stratégie, c'était juste après la période Covid et on a eu l'opportunité d'être accompagné par l'ANSSI sur un parcours cybersécurité. Comme c'était un de nos axes de la stratégie, mais on a utilisé ce parcours cybersécurité pour quelque part écrire une mini-stratégie de la cyber, mais qui est très très importante parce que au-delà de la connaissance du patrimoine de données, il faut savoir le garder intact et le garder d'avoir des données de qualité. Et après est venue l'opportunité de la Loiraine où il fallait qu'on construise aussi notre stratégie sur le numérique responsable. Et au croisement de ces trois stratégies, on a aussi, j'oublie une quatrième stratégie, c'est la stratégie de la donnée. On a construit ces stratégies, en fait, pour, comme le disait Emmanuel, pour pouvoir planifier, pour pouvoir se fixer des objectifs temporels sur les actions qu'on allait mener. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui, on est à la fin de l'écriture de ces stratégies numériques responsables et données. Le plus dur arrive, c'est de les maintenir et de les suivre pendant les 4 années à venir.
Amalia, donc je disais en intro, la FIS 64 a développé une stratégie autour de la cybersécurité pour les petites communes et notamment une stratégie mutualisée. Est-ce que vous pouvez nous la présenter?
Déjà, bonjour à tous. Une petite pensée pour Nathalie Sozo. Voilà, une pensée amicale pour elle. Alors, la FIP 64, en deux mots, on est un syndicat mixte de collectivités. On est composé par les 10 intercommunalités du territoire, dont la communauté d'Aglo Pays Basque et le département. Notre métier, nous, c'est la mutualisation des solutions informatiques. Alors, vous connaissez notre métier principal qui est le déploiement de la fibre optique, mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le rôle de mutualisant. En quelques mots, Sylvain en a parlé, il y a une pression de plus en plus forte sur l'intégrité des systèmes d'information. Et là, quand j'ai dit ça, s'il y a un maire d'une commune dans la salle ou une secrétaire de mairie d'une petite commune, je l'ai déjà perdu. C'est pas du tout par manque de compétences ou manque de connaissances, mais c'est que ce genre d'enjeu, en tout cas, il y a encore 3-4 ans, n'était pas une réalité, on va dire, ou en tout cas une priorité au sein des communes. Pourtant, elles sont autant, voire plus, vulnérables aux attaques sur tous les systèmes d'information d'une commune, quand bien même, la plupart du temps, les maires nous disaient « Non, mais nous, on est trop petits, on n'est pas concernés. » Bah si, bien sûr que vous êtes concernés. Alors, les collectivités comme l'Aglo, comme le département, n'ont absolument, absolument pas besoin de nous, évidemment, pour développer leur propre stratégie. On peut leur apporter éventuellement on va dire un intérêt économique pour des économies d'échelle en termes de prix. Enfin, ça, tout le monde sait le faire. Là, l'intérêt, c'est plutôt de se dire comment une commune peut-elle retrouver de la maîtrise, en fait, sur son système d'information, on va dire sur ses données, sur la continuité, la garantie d'exercer ses politiques publiques. Aujourd'hui, on est dans un univers extrêmement hostile et, comme le disait Sylvain, il y a des parcours qui ont été développés par l'ANSSI, extrêmement intéressants, la ville de Bayonne, la ville de Saint-Jean-de-Luz, l'Aglo, je crois la ville de Biarritz, Anglettes en ont bénéficié. Nous, FIP 64, nous en avons bénéficié. En revanche, rien n'a été prévu pour 95% des collectivités qui composent le territoire national. On fait partie d'une association nationale qui s'appelle le Réseau des Clics et on est allé voir les ministères et on leur a dit, ou la direction du numérique, peu importe, on leur a dit, écoutez, il y a un problème. Celles qui auraient le plus besoin d'être accompagnées sont celles qui n'ont ni les moyens ni les compétences en interne. Or, vous ne proposez rien. Est-ce qu'on peut quand même essayer de monter quelque chose ensemble? Ça a été fait. Donc, il y a un autre appel à projet qui est sorti peu de temps après, en 2022. On a été lauréat de cet appel à projet et cela nous a permis de proposer à l'ensemble des communes du département des Pyrénées-Atlantiques, on va dire 509 communes éligibles sur les 545, de pouvoir accéder à trois choses. De la sensibilisation autour de la cybersécurité, un parcours que Guillaume, ici présent notamment dans l'équipe, avait monté, quelque chose d'extrêmement didactique. Un espèce d'auto-diagnostic assez simplifié qui donnait un rapport de vulnérabilité pour la commune. On n'avait pas forcément besoin d'être informaticien pour le remplir. Ça a permis de poser un peu un état de l'art. Et puis, troisième élément, là où on a vraiment fait levier sur la subvention de l'État, c'est le socle de base pour protéger nos communes. Alors, évidemment, ici, on a affaire à beaucoup d'experts. Vous allez dire, oui, non, OK, ce n'est pas la grosse révolution. Non, vous allez voir que non. Mais en revanche, c'est absolument nécessaire et on espère avoir atteint un seuil avec un effet de cliquet où il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, en gros, c'est des antivirus, EDR, EPP, je ne vais pas entrer dans le détail, des antivirus poste et serveur, du gestionnaire de mots de passe. Alors ça, très peu de collectivités en avaient. On parle bien sûr d'outils souverains, j'aurais dû le préciser, des outils français. De l'anti-spam, bon, vous connaissez tous le leader, je ne vais pas forcément donner son nom, et puis de la sauvegarde de données dans un cloud souverain. Alors, ça vous paraît peut-être la base, de notre point de vue, ça l'était aussi, mais force est de constater que sur les 509 communes, on en a quand même équipé 333 aujourd'hui. 333. Et on parle de communes de moins de 3500 habitants. Donc, pour elles, le reste à charge, zéro pendant 3 ans. Comme on avait été très ambitieux dans la description de notre besoin et qu'on a des communes qui finalement n'avaient pas besoin de nous, mais qu'on avait quand même rentré au cas où dans l'appel à projet, il nous reste de la subvention à décaisser. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Ce qui nous permet de prolonger 3 ans de plus ce dispositif. Donc, pour les collectivités, gros gain en termes de protection. Rien à faire, on a tout fait à distance, installation. Et puis, on espère avoir contribué un petit peu à une acculturation générale sur la cybersécurité parce qu'aujourd'hui, les secrétaires de mairie, on a peut-être parmi nous, on va en faire les couteaux suisses de la territoriale. Il faut qu'elles connaissent la cyber, l'IA, la réglementation, l'urbanisme. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, des gens comme nous, des mutualisants, des communautés de communes qui font de la mutualisation également, permettent à ces communes d'accéder à un niveau de service qui leur paraissait complètement inatteignable, voire je ne suis pas concernée, quoi. Et aujourd'hui, on fait la même chose aussi au sein des écoles. Donc, je pense qu'on a atteint un niveau, on va dire, de conscientisation de ce que représente la cybersécurité comme un élément nécessaire, pas suffisant, mais nécessaire à la continuité de service public. Avant, ce n'était pas une équation qu'on pouvait poser. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. On poursuit le développement et on a ajouté un deuxième volet cybersécurité qui est moins dans les outils, mais plus dans le comportement, qui est la sensibilisation au phishing. D'accord ? Donc, on le sait, hein, une fois qu'on a mis les outils, bah, c'est bien. Mais si derrière, la personne fait n'importe quoi, bah, ça ne va pas suffire, quoi. Donc là, on travaille avec une société aussi. On a eu une deuxième subvention d'appel à projet qui nous permet de l'auto-formation des agents, des élus, sur... alors peut-être vous avez entendu le spoofing, le smishing, tout ce machin ing là. Moi, j'en découvre tous les jours. N'empêche que c'est de mieux en mieux fait. Et on reçoit des mails extrêmement bien ficelés, bien montés, des copier-coller de mails des impôts ou autres, et on peut rapidement se faire avoir. Alors, on ne donnera pas de nom, ne vous inquiétez pas, même si on les a, on ne donnera pas de nom. Mais on a plus de 5000 adresses mails qui ont été on va dire, formées, sensibilisées. On fait des campagnes de faux phishing. Il y a d'autres collectivités dans la salle qui le font aussi. Alors, c'est bien, c'est intéressant. Ça permet d'acculturer un peu. Mais là, encore une fois, on tombe vite sur des limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, OK, tiens, ils m'ont encore envoyé ce truc d'auto-formation, ça va, j'ai autre chose à faire. Donc, on est constamment en train d'essayer de chercher des relais aussi en termes de levier de motivation. Il n'y a rien de mieux que le présentiel, mais ça, on ne peut pas le dupliquer à l'infini. En tout cas, on sait que les outils sont nécessaires, encore une fois, mais pas suffisants. Donc, c'est vraiment une lutte de tous les jours. Mais force est de constater, en tout cas, dans les Pyrénées-Atlantiques, à part quelques cas qu'on connaît bien, on n'a pas eu de grosses menaces. On n'a pas détecté, ou en tout cas, les communes en question ne se sont pas manifestées. Je parle sous contrôle de monsieur. On n'a pas eu de grosses casses. Voilà. Ce n'est pas pareil chez nos voisins irlandais. On a d'autres exemples. Pour l'instant, ça n'est pas... Il n'y a pas une menace, en tout cas, sur des avérées sur des communes que l'on connaît. Donc, continuons comme ça. Ça nous arrivera certainement, mais force est de constater qu'on a tous à peu près dans les communes aujourd'hui un socle de base qui permet de répondre à une majorité de menaces cyber.
Là, voilà une démonstration d'une stratégie avec toujours ce mantra que nous, on aime bien pousser à l'ANUM, les fameux 3 U, utile, utilisable, utilisé. Donc là encore, on est sur un public, on va dire, fragilisé, avec peu de moyens, avec beaucoup de problèmes et peu de moyens. Et là, voilà, une stratégie qui est applicable, utilisable, utilisée. Les 3 U, ça, c'est très important sur tout ce qui est numérique responsable. Ça doit être le mantra et c'est un petit peu la tâche de fond de tout ça. Merci beaucoup, Maya. On va passer à Xavier. Donc Xavier, je le répète, spécialiste cybersécurité, bien sûr, et transformation numérique de l'entreprise C-Link basée à Biarritz, j'ai oublié de le dire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde des entreprises ? J'imagine que c'est un petit peu la même chose au niveau de ses peurs ou pas. Est-ce que finalement, même une petite TPE qui fait du patchant dans son coin ici, elle est également ciblée par ces attaques cyber ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'humeur du terrain ?
Oui, alors, sur les entreprises, les entreprises n'ont pas la chance d'avoir des ressources comme la fibre 64 qui mettent à disposition des systèmes adaptés sur des petites structures. Et donc, effectivement, les petites structures, il y a un risque qui est assez important parce qu'elles sont très peu organisées, elles pensent que ça n'arrive qu'aux autres, et souvent, il y a peu de choses qui sont mises en place. Aujourd'hui, en fait, il y a une mission à travers l'ANSSI qui est poussée, d'une part de sensibilisation qui est faite à travers la gendarmerie, la police et un réseau de réservistes pour aller sensibiliser les entreprises. Bon, il faut arriver à les amener dans des sensibilisations, c'est pas toujours évident, mais c'est un des objectifs. Et en parallèle de ça, l'ANSSI a aussi développé un DIAC cyber qui permet pour des petites structures à travers un réseau d'aidants, donc des personnes qui donnent de leur temps pour aller faire des diags. C'est des choses qui sont assez simples, qui sont assez rapides, mais qui permettent d'avoir un premier niveau et qui reprend en fait ce que tu disais, Amalia. En fait, les premiers niveaux, c'est j'ai des sauvegardes, j'ai un antivirus. Enfin, il y a des choses de base, hein, en fait. C'est vraiment les choses les plus importantes. Mais si tout le monde déjà était à ce niveau-là, on soufflerait un peu, en fait. Donc, il y a un vrai enjeu, en fait, effectivement, et de sensibilisation sur les entreprises, que ce soit sur, alors, sur les TPE, c'est flagrant, mais même sur des PME. Hein, même sur des PME, il y a des PME qui ont très peu de niveau de sécurité. Et il y a des questions d'outils, mais il y a aussi des questions de process. Et quand on parle de process, on a des choses assez simples. Par exemple, les RIB. La gestion de changement de RIB dans une entreprise, il faut qu'il y ait un process qui soit calé pour pas qu'on puisse changer le RIB de quelqu'un qu'on a payé de n'importe quelle manière. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'attaques qui sont « Tiens, voilà mon nouveau RIB, on a changé. » S'il n'y a pas un contrôle de ça, au moins par un contre-appel, enfin, voilà, il faut mettre en place des stratégies. Donc, il y a des risques importants en fait, autour de ça. Et la cybersécurité, sur tous les aspects, la sensibilisation en fait, en est aussi un élément important. Elle vient aussi, comme le disait Sylvain, elle vient sécuriser les données. Parce qu'en fait, l'enjeu pour l'entreprise, c'est bien les données et sa capacité à opérer son activité. Et sur ces deux aspects, on a soit si on est atteint sur sa capacité à opérer, c'est-à-dire qu'on n'est plus en mesure de livrer un client, de faire une facture, ça peut être dramatique pour une entreprise. Il y a des entreprises qui, après une cyberattaque, ferment. Hein. Bon, les chiffres sont contestables, mais il y a souvent un chiffre qui court qui est de 1 sur 2 après une grosse cyberattaque qui ferme parce que l'impact est trop fort. Donc, il y a ce côté opérationnel, mais il y a aussi le côté données. Et quand on a les données de nos clients qui se retrouvent dans le dark web, qui peuvent être vendues avec des informations qu'on peut réutiliser facilement, un peu et de manière un peu cyclique, et tout le monde se repasse les données, donc on part dans un cycle qui peut être assez long. Il y a un vrai enjeu en fait, du coup, pour les entreprises à activer en fait les leviers autour de la cybersécurité pour protéger leur activité, parce qu'en fait l'essentiel c'est vraiment ça.
Et du coup là, maintenant que vous avez bien foutu la trouille, on va dire, maintenant que tout le monde est un petit peu tendant. Justement, en entreprise, la stratégie, c'est quoi? C'est d'aller plutôt aller taper des organisations, la base. Il faut plutôt aller, comme souvent on fait dans les stratégies numériques, vraiment mobiliser les directeurs, les DG. Comment, par quel bout vous prenez
Ça va dépendre de la taille de la structure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une implication de la direction. Il faut que la direction des entreprises soit impliquée dans la cyber. Parce que faire de la cyber, c'est mettre des moyens, mettre des processus et mettre des moyens humains, en fait. Et ces trois éléments, c'est à la main de la direction. Et il faut que la direction, en fait, soit impliquée là-dedans. Et du coup, effectivement, en fonction des tailles d'entreprise, ça va se décliner de manière différente. Sur les petites structures, ben, ça va plutôt falloir aller chercher son prestataire de proximité ou des consultants, voilà, pour essayer d'aider les premières marches. Le Diag Cyber de l'ANSSI, qui est un Diag gratuit, est un premier élément qui est hyper intéressant pour les petites structures, puisque ça permet d'avoir au moins les actions de base à traiter. Voilà. Et puis après, c'est une boucle, enfin, c'est un cycle d'amélioration continue, en fait, la cyber. Donc en fait, c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'on prend un chemin, et on va essayer de s'améliorer en permanence, puisqu'il y a des nouvelles menaces. Enfin, la fête n'est jamais finie, en fait. Hein, donc, il faut tout le temps en fait, revenir dessus et essayer d'améliorer le processus.
Et du coup, vous êtes aussi spécialiste de la transformation numérique des entreprises également. Et du coup, c'est la transformation numérique des entreprises qui va vers la cyber, où on pose les conditions cyber avant d'aller transformer numériquement l'entreprise. Par quel bout, finalement, vous avez les deux visions?
Ce que disait Sylvain, c'est qu'il faut une stratégie globale et en fait, il faut mener plusieurs projets en parallèle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la cybersécurité soit intégrée dans les projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un projet numérique, il faut se poser la question de la sécurité de manière systématique. Voilà, c'est un élément obligatoire. Mais en principe, il faut la cybersécurité, comme on a énormément de pans à traiter, que ce soit de la sensibilisation, des sujets techniques, de l'organisation, on doit le mener il faut essayer de le mener en tout cas en parallèle, voilà, en mettant les éléments les plus importants en priorité pour gérer les plus grosses cyberattaques et s'assurer à minima d'avoir ces données de manière sécurisée quelque part pour que si on est complètement attaqué, qu'on puisse au moins redémarrer rapidement.
J'ai lu quelque part que, on va dire, 80% des risques se situaient entre le clavier et la chaise. Et pour les entreprises, le nœud du souci, ça peut être éventuellement la sensibilisation, mais aussi la formation. Est-ce que les OPCO, donc les organismes financeurs des formations, accompagnent les entreprises? C'est sûr que, par exemple, bon, les collectivités, on a des syndicats de mutualisation qui sont là pour aider, pour former, pour sensibiliser. Pour les entreprises, c'est souvent les OPCO qui jouent ce rôle. Où est-ce qu'on en est-ce que vous avez un retour de ça aujourd'hui?
Ouais, sur les OPCO, alors il y a des choses qui sont faites, mais c'est beaucoup de formations souvent assez institutionnelles. Il y a des formations qui sont faites aussi par la CCI sur le rôle de référent cyber. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, qui permettent aussi quand même d'avancer. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de ressources qui sont produites, que ce soit par l'ANSSI, par cybermalveillance. Enfin, on a quand même un panel de ressources assez important. Il y a un centre de ressources cybersécurité Pays Basque qui a un site web et sur lequel on a aussi pas mal de ressources. Donc, le premier niveau, c'est déjà, on peut assez facilement trouver des informations sur les éléments à enclencher. Voilà. Mais les OPCO, effectivement, ou en tout cas les éléments de formation, ils sont souvent, j'allais dire, assez techniques.
D'accord, merci beaucoup. Amandine? Pour finir ce premier tour de table. Donc, on reste toujours dans le monde de l'entreprise, de la petite entreprise coopérative en plus, et on va aussi traiter un petit peu plus d'un sujet qu'a évoqué Amalia, mais aussi nos deux autres intervenants, qui est la souveraineté numérique, avoir des outils souverains. Donc, Amandine, donc vous avez transformé complètement l'entreprise à Atelier Lanberry en passant entièrement via des logiciels libres. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez été sur cette démarche et finalement ce que ça amène à l'entreprise en termes de business et de développement?
Oui, alors, du coup, pour nous présenter rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, on est effectivement une coopérative qui existe depuis une trentaine d'années sur le territoire et qui fait de la formation professionnelle. On est un organisme de formation professionnelle, ça a son importance parce que ça a joué dans cette démarche-là. Et on fait principalement de l'accompagnement à la création d'entreprises, au développement d'activités économiques individuelles et collectives. Pourquoi je dis que le fait qu'on soit un organisme de formation professionnelle, ça a joué beaucoup dans notre démarche, c'est que il y a quelques années, on a vécu la réforme de la formation professionnelle. Et la réforme de la formation professionnelle, ben, c'est la période de l'avènement des formations numériques à distance, le début de la formation verte à distance, de la formation digitalisée, l'expansion des MOOC, dans cette période-là, en fait. Et donc, à ce moment-là, en termes de contenu pédagogique, on voit qu'il y a un florilège de choses qui se développent et sur lequel, ben, nous, en tant que petit organisme de formation locale, à un moment, il va falloir qu'on se fasse une idée. Le deuxième pendant de ça, c'est que comme on est un organisme de formation professionnelle, on collecte énormément de données personnelles. Et moins aujourd'hui que dans les archives de ce qu'on collectait il y a 10 ans, c'est stupéfiant. Enfin, on a quand même historiquement cette histoire, quoi, le fait d'avoir un stock de données personnelles où là, on voit que ça se digitalise et que à un moment, on les a et qu'il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que à la fois on se protège nous évidemment en tant qu'entreprise, à la fois on protège nos clients, nos bénéficiaires. Donc ça c'est un peu le contexte de départ. Ensuite il y a la position. Emmanuel l'a précisé. On est une organisation engagée dans l'économie sociale et transformatrice. On a un point de vue sur une question de développement économique responsable et on n'a pas pensé le numérique responsable comme le numérique responsable en tant que tel. Nous, on s'est dit, on veut que sur ce champ-là de notre activité, comme sur tous les autres, on ait une solution qui soit éthique, on ait une solution qui soit solidaire, on ait une solution qui soit locale, avec tout ce que ça a d'incluant quand même, parce que l'idée, c'est quand même pas non plus d'être chauvin. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'entreprise, ben, on reste autonome, parce que vis-à-vis d'un certain nombre de solutions qui nous sont proposées, notamment de solutions en SaaS, de solutions de gestion de data, de choses comme ça, à un moment, quand vous mettez toutes les données de vos clients ailleurs et toutes les données de votre produit principal, qui est les formations ailleurs, bah, s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes mort. Tout simplement, la situation, c'est que vous n'avez plus de quoi, vous n'avez plus les moyens, en fait, de reproduire. Donc, on a commencé par ces deux champs-là. En fait, notre transformation numérique, elle a commencé sur ces deux champs-là. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme solution pour gérer toutes nos données internes en étant à peu près sûr qu'on garderait la main dessus? Et comment est-ce qu'on pouvait développer les nouvelles versions de nos formations professionnelles sur des outils qui fassent que si demain, l'éditeur de logiciels ou l'hébergeur n'est plus en capacité de fournir le service, eh bien, on reste, nous, en capacité de former les gens et de les accompagner. Et puis, on est attentif à la notion puisqu'on est un organisme de formation professionnelle, de mise en capacité des personnes à utiliser ou à faire les choses. Et donc, nos outils à nous, il fallait qu'on soit tous en capacité de les utiliser et de faire en sorte que si la personne en charge du numérique, elle n'est pas là, globalement, quand même, le reste de l'équipe puisse débrouiller à débugger quelque chose. Donc, du coup, ça amène à chercher des hélicoptères quand on a besoin d'un hélicoptère et pas des avions de chasse. Et du coup, à chercher des solutions qui soient beaucoup plus basées sur la réorganisation de la donnée, la mise en place de processus effectivement internes un peu adaptés à la taille de l'entreprise et de choisir des solutions où on sait que la personne à qui on a acheté de l'espace serveur, on peut l'appeler, elle nous connaît, lui parle par son prénom et voilà, on est à proximité, entre guillemets. Alors, au-delà des notions de... Effectivement, on voulait avoir des fournisseurs qui soient des fournisseurs locaux, etc., mais où, à défaut régionaux, nous, on travaille sur le transfrontalier, ils auraient pu être transfrontaliers, ça marchait aussi, mais quelque chose qui soit aussi, qui participe au développement d'une économie, d'une intercoopération économique d'acteurs qui fournissent des outils numériques et d'acteurs qui consomment des outils numériques. Et nous, on est des consommateurs d'outils numériques. Donc, effectivement, globalement, on est passé beaucoup sur du libre, beaucoup sur des hébergeurs locaux. Je ne sais plus lequel d'entre vous disait tout à l'heure, c'est une démarche au long cours. Oui, nous, clairement, c'est un pan de notre démarche RSE. Ça fait 7-8 ans qu'on a engagé ça, ça s'est fait brique par brique. Et c'est d'abord les données, puis les outils, puis d'autres outils, puis la messagerie interne passée sur du libre, puis réhéberger son site web en réinterrogeant la manière dont il peut être compatible avec notre hébergeur local. Voilà, faire en sorte que ça crée un écosystème d'outils et de produits qui soit facile d'usage, que tout le monde puisse prendre en main et qui soit résilient. Parce que là, si ça nous arrive évidemment comme à tout le monde, on n'a plus de place, ça s'arrête. Bon, ben, Elliot, qui est ici, qui est notre responsable informatique, qui a finalisé notre procédure de labellisation numérique responsable, il est en capacité de gérer 80% des problématiques qu'on va rencontrer, alors qu'on est une petite entreprise de cette personne. Enfin, je veux dire, voilà. Je vais clore quand même sur un volet qui est le volet formation interne, parce qu'on en a parlé, enfin, la question des 80% là, entre le clavier, alors je ne sais pas si la stat, je n'avais pas exactement la stat entre l'écran et la chaise, mais oui, en fait, il y a un vrai facteur de réussite qui est lié à la motivation. Et nous, clairement, la motivation, elle n'était pas sur le fait forcément d'avoir des logiciels libres, mais vraiment d'utiliser et de diffuser des outils qui soient et solidaires, parce que quand on les met à disposition de nos clients, tous nos clients peuvent les avoir. Toutes les personnes qui viennent chez nous créer une entreprise peuvent accéder à une plateforme de formation ouverte à distance dans lesquelles il y a des contenus pédagogiques qui sont libres de droit, qui peuvent utiliser sur leur téléphone, sur leur ordinateur, sur leur tablette, quel que soit le niveau d'équipement qu'ils sont en mesure de s'acheter ou qu'ils sont en capacité d'utiliser. Et ça, ça nous paraît solidaire, en fait, comme démarche. Et l'autre partie, c'est nous, qu'on soit nous en capacité d'utiliser dans notre équipe tous les outils qu'on a à disposition. Et donc, on a fait un certain nombre de formations en interne. Voilà, sur l'utilisation, sortir de la suite Office pour aller vers d'autres outils, c'est pas naturel pour tout le monde, ça se fait, mais ça se fait dans le temps. C'est un processus qui se fait par briques, qui se fait par étapes. Et quand le numérique n'est pas l'objet, mais bien le support à l'atteinte des objectifs de chacun, on y arrive, en fait. On y arrive par étapes.
Donc justement, c'était, ça allait être ma question sur l'aspect formation. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc la question, c'était là-dessus. Ça se trouve, est-ce que vous avez fait ça à l'arrache sans documenter, alors qu'on vous le demande sans arrêt en formation? Donc, tu y as un peu répondu. Et par contre, c'est les logiciels libres, la souveraineté, c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu. Le seul exemple un petit peu célèbre, c'est justement les gendarmes qui, il y a 10 ans, sont passés de Microsoft à LibreOffice et à tous les... Voilà. Et donc, la question, comme ce n'est pas très bien connu, souvent, on a tendance à croire que logiciel libre égale gratuit. Est-ce que, si ce n'est pas indiscret, tu pourrais nous donner des ordres de grandeur? Déjà, nous dire, est-ce que le logiciel libre, c'est gratuit? Déjà, oui ou non? Bon, alors la réponse, c'est non. Et le rapport par rapport à de la licence classique, Microsoft ou les autres?
Évidemment que le logiciel libre, ce n'est pas gratuit, rien n'est gratuit. Vous connaissez l'adage, hein, dans le numérique, tout ce qui est gratuit, c'est vous. On peut dire. Donc, non, ce n'est pas gratuit. Ça marche parce qu'il y a des utilisateurs, parce qu'il y a des contributeurs, parce qu'à un moment, des gens sont financés pour développer des solutions qui permettent de contribuer à un commun numérique qui est partagé et qui est protégé. Et ces gens-là, il faut être en capacité de leur donner les moyens de développer. Il faut aussi les supporter, entre guillemets, supporter ces solutions-là. Nous, on n'a pas contribué au développement de beaucoup de briques numériques parce qu'on a des usages qui sont très basiques, on a des besoins qui sont très classiques, donc on n'a pas besoin de développer de fonctionnalités particulières. Mais effectivement, dans le service, par exemple, d'hébergement qu'on utilise, il y a une partie de notre... Une partie de notre facturation qui participe à ce que notre fournisseur s'assure de la mise en relation des différentes briques ou logiciels qu'on utilise ensemble. Et donc, ça participe à cet écosystème-là. Le fait de soutenir économiquement des acteurs économiques qui font des solutions, des biens communs numériques qu'on peut utiliser et qui, nous, en termes d'usage, franchement, on a des usages qui sont assez classiques. Et ça couvre 120% de nos besoins, voire certainement 150%, parce qu'on ne connaît pas toutes les fonctionnalités des logiciels libres qu'on utilise. Après, pour être tout à fait honnête, l'étude comparative par rapport à la solution propriétaire, on ne l'a pas faite. Hein. Nous, on ne l'a pas faite, ce n'était pas dans nos critères. Nous, on voulait, on l'a dit, hein, on voulait avoir des outils qui soient solidaires, sur lesquels qui soit responsable, sur lesquels on ait la main. Donc, en fait, la question, elle ne s'est pas posée.
Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, il est mis dans le développement, il n'est pas mis dans la location, en fait. Mais voilà, pour les petites entreprises qui veulent se lancer dedans, voilà, c'est évidemment pas gratuit. Sylvain, tu as été très rapide sur ta première intervention, mais tu l'as fini un petit peu en nous laissant sur notre fin, en disant, voilà, le plus dur reste à venir. Dans une autre conversation, on a parlé, finalement, dans des diverses stratégies, mais on a parlé du mot pragmatisme. Est-ce que, au-delà de l'application de ces stratégies, tu peux nous développer ce concept de pragmatisme et comment il s'applique au sein de la communauté d'Aglo?
Alors, en fait, le pragmatisme, il est venu quand on a travaillé avec Nathalie sur la stratégie NR, où on a changé notre vision de technophile pour avoir une vision beaucoup plus pragmatique et vraiment changer de pied un peu et se dire comment on peut accompagner nos utilisateurs. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de logiciel libre, hein, on a une suite américaine pour faire notre messagerie, tous les outils collaboratifs et tout ça. On n'est pas prêt d'en changer parce que la taille de notre structure ferait que la conduite du changement accompagnée, on est 7, ça, c'est assez facile, mais quand on est 1500 agents, aller former tout le monde, transformer les usages pour tous les utilisateurs, c'est beaucoup plus compliqué. On y réfléchit, mais voilà, c'est pas aujourd'hui, on n'y est pas. Et donc voilà, c'était vraiment se dire, on va essayer de choisir nos outils, de développer nos solutions ou de faire développer nos solutions sur des choses dont on a besoin et qui nous sont utiles. Donc, c'est le concept utile, utilisé, utilisable qu'on a pas mal utilisé sur notre stratégie NR aussi. Et c'est comprendre vraiment le besoin, donc vraiment faire une étude du besoin en amont, arrêter de En général, les directions viennent à la porte de la DSI pour dire, voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Ben, non, ce n'est pas une solution. Il faut que tu nous expliques comment tu travailles, qu'on regarde ensemble comment sont faits tes process et tout ça. Et puis demain, comment on va exploiter les données que tu vas produire dans la solution pour que ça puisse servir à un plus grand nombre et que ces données-là, elles puissent être utilisées en transversalité derrière pour pouvoir aider nos élus à faire des choix stratégiques demain. Donc, le pragmatisme, il est aussi là-dessus. C'est tout ce qu'on va produire, pourquoi on le produit, est-ce que c'est vraiment nécessaire, et puis après, comment on met en musique les différentes données pour mettre en place les tableaux de bord qui vont bien ou mettre en place, utiliser les bons indicateurs pour suivre l'ensemble de nos stratégies. Parce que ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que les stratégies qu'on a écrites, la stratégie usage ou la stratégie numérique responsable, elles viennent au croisement d'autres stratégies de la collectivité, sur une stratégie éco où on va travailler sur de l'économie sociale et solidaire ou circulaire. On l'a écrit dans notre stratégie NR. On va travailler sur de l'accessibilité. Ça fait partie de la stratégie NR. C'est deux engagements dans notre stratégie. Mais on a aussi une mission accessibilité qui a développé un commun numérique pour les communes du territoire pour qu'elles aient toutes un site web qui s'appelle Elgar Web. Donc voilà, on ne s'est pas fait une stratégie NR pour se faire plaisir. On l'a fait au service de la collectivité.
Merci à nos intervenants Sylvain Dufier, Amalia Martinez, Xavier Despujol et Amandine Laferrerie pour leurs témoignages et retours d'expérience. Retrouvez sur le site internet des Rencontres numériques le guide pratique qui regroupe tous les conseils et ressources en ligne mentionnés dans la table ronde.